À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Si François Mauriac, né à Bordeaux en 1885, élu à l'Académie française le 1er juin 1933, demeure l'un des écrivains majeurs de sa génération, il est mort en 1970, il est aussi resté célèbre par la publication de ce fameux bloc-notes au ton polémiste, paru d'abord de manière hebdomadaire dans le journal Le Figaro, puis dans le magazine L'Express. Mais de son vivant, Mauriac n'avait pas repris tous ses écrits journalistiques. Certains de ses bloc-notes demeuraient inédits. Aussi est-ce tout l'intérêt de l'édition établie par Jean Touzeau, publiée aux éditions Bartilla en 2008, intitulée « D'un bloc-notes à l'autre ». Elle propose des textes de 1952 à 1969, période au cours de laquelle Mauriac se consacre presque exclusivement au journalisme, rédigeant avec brio des notes à la fois sur la politique et la littérature et évoquant des souvenirs personnels ou même son inquiétude spirituelle. Dans le passage que nous avons choisi, François Mauriac évoque Ernest Renan. Renan a été élu à l'Académie française en 1878. Mauriac n'était donc pas né. Renan est mort en 1892, quand le jeune François n'avait alors qu'une douzaine d'années. Mais lorsque Mauriac reçoit en service de presse en 1961 une biographie de Renan, les souvenirs personnels remontent à sa mémoire. Et il écrit ce texte intitulé « Le voyage avec Renan » dans lequel, vous allez l'entendre, il rend justice à l'auteur de « La vie de Jésus ».
Si à l'heure du départ, j'ai mis dans ma valise « La vie d'Ernest Renan » par François Millepierre, ce ne fut pas un choix délibéré, mais dans le peloton des derniers livres reçus, celui-là ressuscitait une figure à la fois familière et mal connue de ma jeunesse, ou plutôt méconnue. Le voici aujourd'hui, mon compagnon, ce Renan de mon enfance et de mon adolescence, cet antéchrist gras. Il ne m'aura pas quitté durant ces 3 jours de solitude orageuse. Le printemps meurt tôt cette année. La vigne est déjà en fleurs et déjà les oiseaux se taisent. Il me semble que la maison ne s'accoutume pas à la présence insolite de son maître vivant, jamais là d'habitude en ce moment de l'année, et que je l'empêche de rêver en paix à tous les endormis qui reviendront peut-être dès que j'aurai refermé la porte. Une biographie honnête et soucieuse d'exactitude comme est celle-ci, je lui pardonne sans effort le parti pris qui se trahit déjà dans le sous-titre « Ernest Renan, sage de l'Occident ». Nous avons été assez injustes à l'égard de Renan pour consentir à ce que son dernier biographe le flatte un peu. Anatole France rapporte que le vieux Renan, songeant à ce que les dévots écriraient de lui après sa mort, soupirait « Que je serai noir !» avec un effroi comique. Je conviens qu'à mon entrée dans la vie des lettres, je ne le voyais pas blanc. J'ai même sur la conscience un mot de bêta proféré vers 1910 ou 1911. « Ah, que ce faux bonhomme de Renan nous ennuie !» Cela parut dans ma réponse à une enquête auprès de la jeunesse. Au vrai, je n'avais guère donné à Renan l'occasion de m'ennuyer, l'ayant fort peu lu, la vie de Jésus, les souvenirs d'enfance et de jeunesse, et peut-être les drames philosophiques. C'était à peu près tout mon bagage renanien. En fait, le jeune Renan m'était inconnu. Celui que mes 20 ans traitaient avec insolence, c'était le vieillard illustre que Barrès, mon maître, avait lyriquement bâtonné. Le pire de ce vieux Renan officiel, de ce pachyderme frivole, survivait dans les débiles fils de son esprit. Les fausses grâces renaniennes de Jules Lemaître et d'Anadolphe France déformaient l'idée que nous nous faisions de leur maître. Elles nous masquaient la science authentique du Renan de la jeunesse et de la maturité, ce qu'il avait montré d'acharnement, de désintéressement, de scrupule aussi, dans la quête du vrai. Ce qui m'avait soufflé cette sotte injure de faux bonhomme, c'était aussi, j'imagine, la passion du jeune partisan. Le rideau venait de se baisser sur le dénouement de l'affaire Dreyfus. La République radicale et maçonne triomphait. Or, elle avait fait d'Ernest Renan le plus grand de ses saints. Anatole France était allé encenser sa statue à Tréguier. Il y avait tourné en dérision tout ce que le jeune Renan avait vénéré, et dont il ne s'était jamais tout à fait détaché. Vers 1910, la conversion au catholicisme d'Ernest Psychary, petit-fils de Renan, compta beaucoup au soir de cette grande bataille que nous avions perdue. Mais il était temps d'en gagner une autre. Quand je songe à ces années d'avant la Grande Guerre, où, jeune catholique, je débutais dans les lettres, il ne s'en dégage pas une impression de défaite. Huysmans venait de mourir, et Léon Blois vivait encore. Autour de Piggy, de Claudel, de Maritain, tout ce qu'on avait cru abattre revivait. Cet Ernest Psychary, que je me souviens d'avoir vu communier un dimanche matin chez les bénédictines de la rue Monsieur, et qui, disions-nous, avait pris contre son père le parti de ses pères, n'aurait pas étonné l'auteur de la vie de Jésus qui eût reconnu dans ce jeune soldat une part de son héritage clérical. Non que leurs deux routes se croisent à aucun endroit, les raisons de l'un ne valaient pas pour l'autre, mais le jeune Renan ne fut-il pas lui aussi un dévot ? Au vrai, Renan n'eut jamais que l'apparence de la piété. On s'étonne qu'il lui ait fallu tout ce temps pour se détacher de l'Église et qu'il ait été jusqu'aux ordres mineurs et qu'il se soit résigné à la tonsure, tant il appartient déjà à la science divinité unique. À mesure que je le vois se détacher puis s'éloigner, ce jeune Renan, je m'interroge. À intelligence égale, à science égale, pourquoi les uns restent-ils fidèles et non les autres ? Pourquoi l'interprétation messianique de tels psaumes met-elle en question la croyance de certains, alors que d'autres n'y arrêtent même pas leurs pensées ? Au niveau le plus bas jouent de très humbles raisons, qui firent hésiter longtemps le séminariste d'Issy et de Saint-Sulpice, le désir de ne pas faire de peine à sa pieuse mère, la sécurité, les conditions de vie rêvées dans l'Église pour poursuivre en paix l'étude des langues sémitiques. Mais c'est là le lien le plus faible et qui ne tient pas contre les avantages du monde. Un seul lien résiste à tout, qui manquait à Renan. Il n'a jamais été un mystique. Il demeura sensible jusqu'à la fin au charme chrétien, mais il n'a pas aimé le Christ vivant. Il s'attachait aux personnages de l'histoire, dont l'existence lui était attestée par des documents qui relevaient de la critique. Où la foi dépend de l'exégèse, de cette science que Renan lui-même disait être conjecturale, et comme alors elle est menacée. Où sa racine est intérieure et procède d'un amour qui n'exige d'autres preuves que lui-même et qui triomphe de sa propre évidence. L'historien et le mystique ne parlent pas du même Dieu. Poursuivant sa recherche dans le silence du cabinet, Renan devait bien mépriser le père Lacordaire. Avec quel dédain voilé il parle de l'amener dans les essais de morale et de critique. Ce père Lacordaire, qui alors enchantait des foules à Notre-Dame par des affirmations sans preuve. Mais la ferveur qui inspirait Lacordaire n'était pas jouée. L'objet de cet amour relève-t-il de la critique historique ? Le témoignage des mystiques est-il sans valeur pour le savant ? Voilà ce qui sépare deux familles d'esprits dont c'est trop peu dire qu'elles ne s'entendront jamais parce qu'en vérité, elles ne se rencontrent jamais.
François Mauriac découvre dans cette biographie qu'il est en train de lire tout le rôle joué par la sœur de Renan, Henriette. Alors qu'elle voyageait en Orient avec son frère peu avant sa mort, elle lui avait avoué « Je t'ai beaucoup aimé. Quelquefois, mon affection t'a fait souffrir. J'ai été injuste, exclusive. Mais c'est que je t'ai aimé comme on n'aime plus, comme on ne doit peut-être pas aimer. » Cet aveu laisse François Mauriac songeur.
Henriette Renan, notre biographe, la juge redoutable. Pour moi, plus encore que Jacqueline Pascal, que Lucile de Chateaubriand ou qu'Eugénie de Guérin, cette grande sœur immolée et amère me touche. Il y avait encore à Issy, où j'allais voir l'un des miens, en 1906 ou 1907, un vieux sulpicien qui bougonnait « C'est cette coquine d'Henriette qui a fait tout le mal ». Une idolâtre de son frère, en vérité, et qui s'était attachée à ce qu'il y a de plus illusoire dans l'ordre du sentiment. Car à quoi bon, en amour, ce qui ne s'étreint pas, ce qui n'est pas possédé ? Mais Dieu peut l'être, et tout est là. Il n'y a pas deux amours. C'est ce que le père Lacordaire eut rappelé à Henriette si elle avait été mêlée aux foules de Notre-Dame au lieu d'être cette institutrice exilée en Pologne durant toute sa jeunesse pour subvenir à l'entretien du petit frère bien-aimé.
Et pour terminer cette note, François Mauriac s'interroge sur les convertis. Pour apprécier ce passage, il convient de se rappeler que Renan avait rédigé un ouvrage sur Lamennais, qui était prêtre, mais qui s'était opposé au pape.
Je m'interromps de lire et je songe à ce que recouvrent certains mots pour beaucoup de chrétiens. À quoi se convertissent les convertis ? Et les renégats ? Que redit-il ? Ils ne le savent pas toujours eux-mêmes. Chez Renan, dès le départ, l'inflexible esprit obéit à sa propre loi. Il va à sa fin avec un prudent acharnement, redoutable à ceux qu'il devait combattre un jour parce qu'il avait été nourri et initié par eux. Il en convient lui-même à propos de Lamennais. L'attaque du prêtre a toujours un caractère particulier de froideur et d'assurance. On sent dans les coups qu'il porte une sûreté de main que le laïc n'atteint jamais. Celui-ci, habitué à regarder de loin le sanctuaire, ne s'en approche qu'avec respect, même quand la divinité l'a quitté. Mais le prêtre, qui en connaît les secrets, l'ouvre et le livre au regard avec l'audace d'un familier.
Vous venez d'entendre un texte de François Mauriac, extrait de l'ouvrage « D'un bloc-notes à l'autre », édition établie par Jean Touzeau pour les éditions Bartillat.